17h45 sur RRB, Info Week-end, Isabelle Pelletier.
Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte après le décès d'un homme de 32 ans, tué lors d'un coup de chasse à Yengen dans la nuit de vendredi. L'Agence sanitaire et sociale lance une campagne de sensibilisation à l'hygiène pour la prévention du rhumatisme articulaire aigu. L'objectif, toucher un maximum de jeunes. Plus de 2000 personnes ont été au rendez-vous du Festival Olympar ce week-end au skatepark de Sainte-Marie. Au programme, la promotion des nouvelles disciplines intégrées au JO comme le skate ou le breakdance. La crainte d'un embrasement au Moyen-Orient après les menaces de représailles du Hamas et du Hezbollah libanais envers Israël. La suite des Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour le moment, l'équipe de France est troisième du classement des médailles avec pas moins de 12 médailles d'or. Et puis clap de fin sur les championnats de Calédonie de padel, deux finales qui se terminent sur deux forfaits après deux week-ends de matchs intenses pour près de 200 participants. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal au chapitre des faits divers. Nous vous annoncions hier cet accident de chasse qui a fait un mort vendredi soir à Yengen. Les premiers éléments des investigations ont abouti à l'ouverture d'une enquête pour homicide involontaire lors d'une action de chasse prohibée. Michael Juneski.
Oui, le procureur de la République a révélé que deux cousins résidant à la tribu de Ueava à Yengen étaient partis chasser sur des terres appartenant à un propriétaire qui n'avait pas donné son accord à cette action de chasse. Vers 22h30, après avoir blessé un cerf, les deux hommes ont suivi des itinéraires différents à pied pour se rapprocher de l'animal. À un moment, l'un des chasseurs, croyant apercevoir le cerf, a tiré un coup de feu qui a donc touché son cousin au niveau du visage. La victime, âgée de 32 ans, atteinte par 5 impacts de plomb, était transportée à la caserne des pompiers vers 23h où elle est décédée. Une autopsie a été ordonnée par le parquet ainsi qu'une expertise toxicologique concernant tant l'auteur présumé que la victime. Le tireur, âgé lui de 31 ans, a été placé en garde à vue après les faits. Lors de ses auditions, il a reconnu avoir tiré ce coup de feu avec son fusil de calibre 12 en direction d'une masse qui, selon lui, je cite, présentait une forme circulaire brillant comme les yeux d'une biche, alors qu'il s'agissait en réalité de la veste de la victime dotée d'une bande réfléchissante. En arrivant sur les lieux, il a découvert le corps de son cousin avec deux autres personnes présentes, mais se trouvant en retrait de leur action de chasse. Ils ont transporté le corps de la victime à la caserne des pompiers. Le mis en cause a admis sa pleine responsabilité dans ce décès accidentel. Il devrait recevoir prochainement une convocation à l'audience correctionnelle.
Et puis, la collision entre deux voitures sur la RP4 entre Thiot et Boulou-Paris, survenue hier matin, aura finalement fait un mort, Michael.
La personne qui avait été évacuée par hélicoptère vers le Médipôle pour une blessure à la tête est décédée cet après-midi. Pour rappel, l'un des véhicules s'était déporté sur la voie de gauche à cause d'un arbre qui barrait la route. Elle est entrée à ce moment en collision avec une voiture qui arrivait en sens inverse. Dans la première voiture se trouvaient 4 personnes. 2 d'entre elles avaient été blessées. La première donc qui n'a malheureusement pas survécu. Un deuxième passager avait été blessé au bras. Dans le deuxième véhicule, une seule personne à bord qui n'a pas été blessée. Les pompiers étaient arrivés rapidement sur place. Aucune personne ne se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique.
Et puis un navire de plaisance à moteur qui s'est signalé en avarie de propulsion ce matin. L'accident est arrivé à 7h45. Le COSNC a diffusé des messages VHS, puis un taxi-boat a pris en remorque le requérant pour le ramener jusqu'à Nouméa. Et c'est l'heure de voir de quoi la semaine qui vient sera faite, l'heure de notre agenda avec vous, Michael.
Oui, semaine d'abord marquée évidemment par les vacances scolaires. Après la réouverture des boucles de Tina, d'ailleurs samedi, le parc provincial zoologique et forestier de Nouméa et le parc des Grandes Fougères rouvrent leurs portes à partir de mercredi pour le plus grand plaisir des familles. Les horaires sont modifiés du mercredi au dimanche, de 9h à 16h durant la période des vacances. À noter que mercredi, la Maison de la Biodiversité de Sainte-Marie reprend aussi ses activités, toujours en avec les vacances scolaires. Le Ciné Drive-In du Mont d'Or reprend lui aussi ses activités jeudi prochain. Jeudi, les élus du Congrès seront réunis en séance publique. Ils examineront notamment un projet de délibération portant mesures exceptionnelles en faveur de la CLR. Le CESE doit quant à lui examiner une proposition de loi du pays modifiant la délibération cadre modifiée du 28 décembre 1989 relative à l'aide médicale et aux aides sociales. Une proposition qui vise à supprimer la possibilité pour les provinces d'instaurer un ticket modérateur appliqué aux dépenses de santé liées aux affectations de longue durée. Et puis dimanche prochain, la mairie de Nouméa organise son vide-grenier sur la place des Cocotiers.
Et puis alors que KNS a annoncé le lancement de la procédure de licenciement collectif de ses salariés, quelles sont les questions qui se posent autour de la reprise de l'usine du Nord ? Quelles sont les perspectives pour KNS? C'est un sujet dont nous parlerons demain matin à 7h30. Notre invité sera en effet Karl Terbi, le PDG de la SMSP. Autre rendez-vous d'antenne à la fin de ce journal. Vous retrouverez la rediffusion du magazine Transparence. C'est Philippe Blaise, le premier vice-président de la province Sud, élu loyaliste et président du MRC, qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir. Une émission également disponible en podcast, audio et vidéo sur notre site internet. Les mesures de couvre-feu, on le rappelle, ont été prolongées sur l'ensemble du territoire. Sarah Mégery.
Décision prise vendredi par le haut-commissaire qui précise qu'il restera en vigueur de 22h à 5h du matin jusqu'au lundi 12 août. La vente d'alcool reste interdite sur l'ensemble du territoire pendant cette période, y compris chez les cavistes. Le transport d'armes est également interdit.
L'Agence sanitaire et sociale lance demain sa campagne de sensibilisation à l'hygiène pour prévenir le rhumatisme articulaire aigu. L'objectif, réduire les risques en promouvant une hygiène de base auprès des parents et de leurs enfants, mais aussi des professionnels de santé. La nouveauté cette année, la campagne se fera en partie sur les réseaux sociaux pour toucher un maximum de jeunes. Les précisions de Nathalie Sago, responsable du programme du rhumatisme articulaire aigu à la SSNC.
Les jeunes sont vraiment les adeptes des réseaux, donc on s'est dit comment toucher les jeunes? Et ben voilà, touchons-les par une campagne de communication sur les réseaux pour promouvoir l'hygiène de base dans les familles. L'hygiène de base qui est finalement un principe pour prévenir les infections générales et dont le rhumatisme articulaire aigu. Ça a été aussi l'occasion de rappeler que l'hygiène des mains, par exemple, chez les soignants est primordiale, que c'est un vecteur important de maladies nosocomiales, c'est-à-dire les infections liées aux soins dans les services.
Du côté des opérations de dépistage de la maladie, elles ont débuté au mois de mars comme tous les ans dans les écoles, notamment les classes de CM1 et CLIS. Malheureusement, elles ont dû être interrompues après le 13 mai. La SS a pu reprendre ses activités il y a une quinzaine de jours malgré tout. Les visites réalisées normalement en province Nord et en province des Îles ne sont-elles pas assurées?
Le dépistage, il commence tout chaque année en mars et il se termine vers octobre. Alors là, on a commencé en mars, mais on pensait qu'il a été interrompu en mai en raison des fermetures des écoles. Donc effectivement, on n'a pas pu aller dans les écoles. Ensuite, la difficulté de circulation ne nous a pas permis d'aller, par exemple, en province Nord et d'aller, par exemple, aux îles. C'est en province Nord et aux îles où on trouve le plus de cas comparé au nombre d'habitants. Alors on va essayer d'ici la fin de l'année de couvrir le maximum d'écoles possible, mais effectivement on n'est pas sûr d'arriver à faire un dépistage complet de tout le territoire cette année.
Nathalie Sago, responsable du programme du rhumatisme articulaire aigu à la SSNC, répondait à Charlotte Coulson. Pour rappel, le rhumatisme articulaire aigu est une inflammation des articulations, du cœur, de la peau et du système nerveux. Il est conséquent à une complication d'une angine à streptocoque non traitée. Le festival Olympar, cet événement destiné à promouvoir les nouvelles disciplines intégrées au JO et installé ce week-end au skatepark de Sainte-Marie, a attiré plus de 2000 personnes en deux jours, Michael Juneski.
Rien que ce dimanche, environ 1300 personnes se sont rendues sur le site du skatepark de Sainte-Marie. Le public a été séduit par les multiples activités proposées et par l'ambiance. Le bilan avec Antoine Dalia, président du groupement d'employeurs sport et loisirs sud, organisateur du festival Olympar.
Après deux belles journées de soleil, le bilan est plus que positif, les gens, le public est au rendez-vous, les familles viennent très nombreuses, voilà, les enfants, les parents, les adultes seuls, donc ils viennent se tester, voilà, à côté de nous c'est le basket, le street workout, donc voilà, on a aussi des nouvelles choses qu'on ne proposait pas hier, donc du monde, surtout le site, donc c'est génial.
Quelles sont à votre avis les activités les plus prisées?
Alors ben justement les activités qui ne sont pas forcément connues, on a le parcours. Voilà, un peu le style Yamakasi, qu'on a bien connu à la télé ou autre. Il y avait un Calédonien à l'époque qui était dans la team. Donc voilà, ça marche bien sur les démonstrations. Le breakdance, ça attire beaucoup, puisque il y a un show, il y a un rappeur qui est présent en même temps, il y a de la musique. Voilà, donc il y a une belle ambiance, donc c'est ça qui attire.
Les nouvelles disciplines inscrites au JO, comme le skate ou le breakdance, étaient à l'honneur durant ces deux jours, mais aussi la culture urbaine, avec le graff ou le hip-hop, ou encore le BMX et le basket 3 contre 3. Enfants et ados se sont essayés à toutes les activités. Sur le stand de Parcours Nouméa, Lana, 13 ans, qui pratique depuis presque 2 ans, entraînait les plus jeunes à faire des roulades.
J'ai vu une personne en faire, ça m'a donné envie d'essayer. En premier, il faut maîtriser la roulade pour l'amortir au cas où si on fait une chute. Les sauts de précision pour sauter d'un d'un point à un autre. C'est les deux éléments qu'il faut connaître bien au tout début pour commencer.
Et après ?
Après, ça dépend. On apprend en bateau. Ce que je préfère, je dirais les sauts de chat, ouais. Il y a plein d'autres sauts, mais mon saut préféré, c'est le saut de chat.
T'as mis longtemps pour maîtriser ? C'est pas frustrant par moment comme où t'as avancé vite ? Comment ça se passe pour toi ?
Non, ça va, je le maîtrise assez bien, le saut de chat. Mais c'est pas frustrant parce que vu qu'on est un groupe, on est un bon groupe, on va à notre rythme.
Autre stand qui attire massivement les enfants, celui de l'association C'est Slack et Bon, qui leur propose de travailler leur équilibre sur une sangle élastique tendue entre deux arbres, une slackline. Kezia, 9 ans, et Héloïse, 10 ans, ont essayé ce matin.
La première fois que j'ai essayé, c'était il y a un an. Et puis après, j'ai réessayé pas beaucoup de temps après. Mais sinon, j'ai plus jamais réessayé depuis ce jour-là.
Comment tu te débrouilles ? Ça va ? T'as trouvé ton équilibre ?
Un peu. D'avoir l'équilibre et surtout de marcher dessus. En fait, c'est la base du truc, c'est difficile.
J'ai découvert hier. Je trouve que c'est bien en dehors de ça. Je prenais aussi des cours de skate. Du coup, ça m'a permis un peu de m'améliorer et tout. En fait, hier, ma maman, elle voulait pas que je le fasse. Du coup, là, j'ai essayé aujourd'hui.
Et comment ça se passe ?
Ça se passe bien, ouais. Ça va, c'est compliqué quand même. Des fois, on tombe juste comme ça.
Et le festival Olympar était un événement entièrement gratuit.
Forte affluence à la foire aux affaires du Pont des Français, un vide-grenier qui a attiré ce matin de nombreux visiteurs, Sarah Mégerie.
Des prix attractifs, des affaires de toutes sortes à moins de 500 francs, des vêtements, de l'électroménager, des plantes, mais aussi des stands de restauration. Les familles sont venues nombreuses pour profiter de cette belle journée.
J'ai acheté une trottinette et un pull et des claquettes et aussi des chaussures pour aller à l'école et un bracelet pour moi et mon petit frère.
On est venu en petite famille ici, passer un peu un dimanche. Comme tous les dimanches, on est là pour prendre une petite déj, dépenser un peu sur des articles qu'on peut trouver moins chers ici qu'ailleurs.
Acheter des petits trucs à 100 balles, tourner un peu, voir, parce que c'est la première fois que je reviens ici depuis.
À manger aussi et des boissons. Après, venir juste balader avec ma grande soeur.
Par rapport à la semaine dernière, dimanche dernier, on était venu, il n'y avait pas beaucoup de stands et ce dimanche-là, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a plusieurs stands et beaucoup de bonnes choses.
Ce vide-grenier est une aubaine pour les visiteurs, mais aussi pour les exposants.
C'est un bon plan. Tu peux gagner comme tu peux pas gagner, mais après ça dépend des jours.
On débarrasse tout ce qu'on a à la maison et on fait des petits prix à 300 francs, 500, ça reste raisonnable.
On vend des brochettes, il y a des boulettes, des nems, des gâteaux.
Des bricoles, du linge, pas cher, 200 balles, 300 balles, et puis un peu de légumes.
On vend les affaires scolaires parce que c'est les anciennes affaires. On voit aussi qu'il y a des polos de magenta et tout pour les nouveaux élèves.
On fait ça tous les 2-3 ans, quoi. Une fois tous les 2-3 ans, quand il y en a vraiment trop dans les placards.
Si certains vendeurs exposent rarement, beaucoup d'autres profitent de l'occasion tous les dimanches de 6h à midi pour vider leur grenier à la foire aux affaires du Pont des Français. L'entrée pour les visiteurs est à 200 francs.
Merci Sarah. Il est 17h58. Nous marquons une première pause dans ce journal avant de développer l'actualité nationale et internationale. On se retrouve après une page de publicité.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
Des rats autour de chez vous ? Pensez Formula 4D. N'attendez pas qu'ils évoluent à l'intérieur. On vous propose un traitement adapté pour les éradiquer. Plus d'infos sur formula4d.com.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite du journal, Isabelle Pelletier.
Et l'actualité dans le monde, les Israéliens craignent une escalade militaire après les menaces des représailles du Hamas, du Hezbollah libanais. 10 mois après le 7 octobre, c'est le retour de la psychose dans les rues du pays, d'autant que l'Iran, qui hébergeait Ismaël Haniyeh au moment de sa mort, a lui aussi menacé Israël de représailles. Rien de ménage pour Europe 1.
Oui, la réponse viendra au moment et au lieu approprié, déclaration des gardiens de la révolution iranien, tandis que la représentation iranienne auprès de l'ONU dit-elle s'attendre à ce que le Hezbollah, allié de Téhéran, frappe le territoire israélien, je cite, en profondeur, et ne se limite pas aux cibles militaires. Israël est donc en état d'alerte, effectivement, face à ces menaces de représailles. Elles sont quasi certaines. La question est quelle sera leur nature ? L'Iran et ses alliés agiront-ils de façon coordonnée ou séparément ? L'armée israélienne israélienne a en tout cas depuis plusieurs jours renforcé sa défense antiaérienne. En cas d'attaque massive, l'État hébreu comptera aussi sur le soutien des États-Unis. Le Pentagone a d'ailleurs annoncé un renforcement du dispositif militaire américain dans la région, renforcement des capacités d'interception notamment, avec l'envoi d'avions de combat et de navires porteurs de missiles balistiques de défense.
Ariane Ménage, correspondante en Israël d'Europe 1. Le Royaume-Uni secoué par des heurts samedi entre la police et des manifestants anti-immigration après l'attaque au couteau qui a coûté la vie à 3 fillettes à Southport. Des violences ont éclaté à Liverpool, Manchester ou encore Belfast dans ces manifestations qui se sont déroulées à travers tout le Royaume-Uni sur le mot d'ordre anti-immigration et anti-musulman enough is enough. Aux États-Unis, Donald Trump et Kamala Harris s'affrontent déjà sur la date de leur débat. Le candidat du Parti républicain affirme avoir convenu avec Fox News de débattre avec Kamala Harris le 4 septembre. En retour, la candidate des démocrates accuse le milliardaire d'avoir peur en refusant le débat prévu initialement avec Joe Biden le 10 septembre sur ABC. L'engouement autour des JO ne fait pas oublier à certains la polémique entourant la cérémonie d'ouverture de la semaine dernière. Une partie des spectateurs s'était offusquée d'une possible caricature des apôtres de la scène de Vinci par des drag queens. Le Vatican a fait part lui aussi ce matin pour nous de son émoi face à cette partie du spectacle. Le Saint-Siège n'a pas du tout apprécié la mise en scène de Thomas Joly et Antonino Gallofaro, correspondant d'Europe 1 sur place.
Non, pas du tout. Certaines scènes de la cérémonie l'ont même attristé, comme le petit État l'a écrit dans un communiqué. Il ne précise pas quelle scène en particulier, mais on peut imaginer qu'il fait référence à celle qui rappelle la dernière scène. Il déplore donc ce qu'il définit une offense faite à de nombreux chrétiens. Le Saint-Siège considère que lors d'un tel événement, il ne devrait pas y avoir ce genre d'allusion ridiculisant les convictions religieuses de nombreuses personnes. Le Vatican a attendu une semaine pour réagir, mais on avait pu deviner sa position dès le lendemain de la cérémonie. Il suffisait de lire Avvenire, le quotidien des évêques italiens, proche du Saint-Siège. Le journal avait été bien plus direct et sans filtre diplomatique. Il avait demandé d'expliquer le sens de transformer chaque événement mondial en une gay pride. Milan, Antonino Gallofaro, Europe 1.
L'actualité dans la région. En Australie, un habitant de la Nouvelle-Galles du Sud, en vacances dans le Queensland, a été tué par un crocodile, et c'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
L'homme, qui est âgé de 40 ans, pêchait en compagnie de sa famille le long des berges de la rivière Annan, environ 7 km au sud de Cooktown. Il aurait toutefois glissé et serait tombé à l'eau au lieu-dit Crocodile Bend, où il a immédiatement été attaqué par un crocodile d'estuaire sous les yeux de ses parents et de ses enfants qui ont tenté en vain de le secourir. Alerté, la police locale a bien effectué une recherche des lieux qui n'a rien donné. Il semblerait que l'attaque a été fatale, en a déclaré un porte-parole. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
18h03, nous marquons une seconde pause, dans ce journal avant de développer l'actualité sportive. Et on parlera bien sûr des JO. On se retrouve après la pub.
Savez-vous que quand plusieurs appareils sont branchés au même endroit, il est préférable de les brancher sur une multiprise équipée d'un interrupteur ? On peut ainsi couper l'alimentation de tous les appareils d'un seul geste.
Retrouvez toutes les astuces EcoConso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance. Choisissez les ambulances Saint-Jacques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite du journal et tout le sport, Isabelle Pelletier.
Oui, à la une de cette actualité sportive, les Jeux Olympiques.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
La première semaine de compétition a largement souri au camp français pour ces JO de Paris 2024 et on espère encore de nouveaux podiums ce soir, Mickaël Juniski.
Oui, pour le moment, l'équipe de France est troisième du classement des médailles, toutes compétitions confondues, avec pas moins de 12 médailles d'or sur 41 médailles décrochées. La Chine est en tête de ce classement, 16 médailles d'or, alors que les États-Unis sont remontés à la deuxième place avec 14 médailles d'or. Aujourd'hui encore, on a vu notamment les judokas tricolores décrocher l'or en finale par équipe. équipe face au Japon. Les Français bien emmenés par Teddy Riner, le Guadeloupéen coaché par le Calédonien Laurent Caléja. Des récompenses, un engouement populaire pour le moment. Ces Jeux Olympiques sont une réussite selon Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des JO de Paris 2024.
C'est formidable ce qui se passe effectivement. Quel régal de voir ces Jeux Olympiques chez nous en France. Avec une telle ferveur, des sites qui ont une gueule folle, un public on fire qui met une ambiance de fou partout, et puis des athlètes qui nous régalent quoi. Chaque jour ça score et c'est magique en fait. Quand on aime le sport, quand on aime les jeux, quand on aime la France, là il y a tout quoi. Il y a tout pour vivre des grands moments. Les gens ont l'air heureux et nous en tant qu'organisateurs. C'est une vraie fierté parce que c'est vrai que ça fait quelques années qu'on y travaille, on y a toujours cru, on s'est battu comme des lions pour faire de ce moment un grand moment et pour l'instant on est à la mi-temps donc on va pas crier victoire trop tôt mais c'est vrai que pour l'instant ça fait quand même beaucoup de bien, ça fait 100 ans qu'on attendait ça et pour l'instant c'est un vrai régal.
Et il y aura encore des chances de médailles pour les Bleus ce soir et demain matin. Nouvelle journée chargée pour les Français avec en point d'orgue la natation. Le relais 4x100 mètres, 4 nages messieurs, où sera aligné le Calédonien Maxime Grousset aux côtés de Léon Marchand et Florent Manaudou. Départ à 4h10, tandis que la Calédonienne Emma Terebo devrait être de la partie cette fois sur le relais 4x100 mètres, 4 nages dames à 4h32 demain matin. D'autres compétitions en cours. Félix Lebrun en tennis de table jouera pour le bronze. Une finale également en gymnastique pour Samir Aït Saïd aux anneaux. À suivre également l'entrée en lice de Sacha Zoya en athlétisme sur le 110 mètres haies. Les deux combats des boxeurs Bilal Benhama et Sofiane Oumina en demi-finale. L'escrime avec le quart de finale messieurs au fleuret. France-Chine. Le dernier match de poule des Bleus du handball contre la Hongrie. En volet, les Françaises joueront leur dernier match de poule, elles, contre les Américaines. Les basketteuses retrouveront les Australiennes. Les joueuses de l'équipe de France de waterpolo feront quant à elles face à la Grèce. Et puis, notez encore qu'en raison des conditions météo, la fin de la compétition de surf en Polynésie française a été repoussée à lundi soir, mardi matin pour nous. Je rappelle que le Tahitien Kaoli Vast, dont la mère est calédonienne, est qualifié en demi-finale sur le spot de Teahupo.
C'était les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et c'est Gilles du 6e kilomètre à Nouméa qui est aujourd'hui le gagnant de notre jeu de mémoire de jeu et qui remporte donc un bon carburant de 5000 francs offert par notre partenaire Shell. Nous vous demandions lequel de ces trois joueurs de football français n'a jamais participé au JO. Vous aviez le choix entre Dominique Rocheteau, Michel Platini et Patrick Battiston. La bonne réponse était Dominique Rocheteau. Michel Platini et Patrick Battiston ont participé au JO en 1976. Cette année-là, la France avait perdu en quart de finale face au Brésil. La France n'a remporté qu'une seule fois le tournoi de football olympique. C'était en 1984. Rendez-vous demain pour une nouvelle question de mémoire de jeu sur RRB. Le reste de l'actualité sportive, Mickaël, avec les sports mécaniques.
Oui, et le championnat du monde des rallyes qui fait étape en Finlande. Et Kalle Rovanperä mène la danse après les 16 premières spéciales. Le pilote Toyota sur cette aire est en tête du classement devant le français Sébastien Ogier. Et puis, en MotoGP, le rendez-vous du week-end, c'est le Grand Prix de Grande-Bretagne. L'Italien Enea Bastianini a déjà remporté la sprint race hier soir. Côté français, Fabio Quartararo s'est classé 11e, Johan Zarco 16e. La course sera à suivre ce soir.
Et du sport encore avec le clap de fin des championnats de Calédonie de padel.
Deuxième week-end d'une compétition qui a réuni près de 200 participants avec malheureusement des finales qui se sont terminées sur des forfaits chez les messieurs tout d'abord. Dans un match qui était de haute volée et qui livrait du grand spectacle, le duo Lorenz Pesley-Nicolas Ngodrella a décroché le titre après la terrible blessure de Guillaume Monod alors que les frères Monod jouaient aussi pour le titre devant un public nombreux. On écoute Lorenz Pesley et Nicolas Ngodrella.
Ça fait deux week-ends qu'il y a beaucoup de matchs pour ce championnat. Le padel, ça rassemble vraiment beaucoup de monde. Donc c'est vraiment une grosse fête, un sport qui prend. Et on espère que ça va continuer de prendre. Et en tout cas, nous, on a pris du plaisir. Mais c'est dommage que ça se finisse comme ça.
Je pense qu'il y avait une très bonne ambiance. Et puis, il y avait pas mal de matchs intéressants. Des niveaux quand même qui sont très disparates. Hein, mais les gens progressent, on voit une évolution et plein de bonnes choses pour l'avenir.
C'était votre adversaire en face et vous étiez son premier soigneur dès qu'il y a eu la blessure. Je vous ai vu courir, prendre tout de suite le matériel qu'il fallait pour pouvoir soigner le copain.
C'est Guillaume, on a fait les mini-jeux du Pacifique ensemble, on a fait les jeux de Papouasie ensemble. C'est comme un frère pour moi, donc finir dans ces conditions-là, c'est un peu du gâchis. C'est un guerrier, je savais qu'il voulait repartir, donc on a vu l'état de sa cheville, elle était bien entamée, mais il voulait quand même continuer, mais on a essayé de raisonner. Mais voilà, il s'en veut de ça, mais il n'y pouvait rien, et je lui souhaite un bon rétablissement et du courage.
Et un peu plus tôt chez les dames aussi, le public a souffert lors de la blessure de Stéphanie Olivo qui a contraint l'équipe. Olivo prévôt à jeter l'éponge, laissant la victoire à Célia Pérez et Lindsay Motonekeriai dans une finale très disputée. La réaction de Célia Pérez et Lindsay Motonekeriai.
On est un peu triste pour la finale, enfin pour notre adversaire qui s'est blessé sur la fin. Mais on était bien parti dans le match, c'était cool. Mais en tout cas, c'est super que ça puisse être joué parce que c'était pas gagné avec ce qui s'est passé, ça a été décalé, redécalé et d'avoir pu le finir, on est très content de ça déjà.
Super tournoi, on a fait des beaux matchs, je suis plutôt fière de nous, voilà, même sur la fin, sur le dernier match. Et c'est dommage, voilà, comme elle a dit Célia, qu'une de nos copines se soit blessée parce qu'on aurait aimé la continuer et la gagner différemment. Mais ouais, super contente du tournoi qu'on a fait.
Vous allez aller les disputer, les championnats de France de padel?
Maintenant oui, parce que voilà, avec Célia qui est aussi ma chérie, on part bientôt pour la métropole en septembre. Donc ça nous a poussé un petit peu avec ce trophée-là, d'avancer le billet et pourquoi pas participer aux championnats de France.
Et les championnats de France de padel sont prévus à Strasbourg du 13 au 15 septembre prochain, en métropole donc.
Et puis des résultats de voile aussi, Mickaël.
Oui, la suite du challenge J70 en baie des Citrons. 3 bateaux en lice ce week-end. C'est l'équipage 20 cm qui remporte cette manche devant l'équipage Keep Cool, suivi de l'équipage Rasta Rocket. L'équipage Rasta Rocket qui avait pourtant gagné les 4 premières manches du challenge. La suite, prochain épisode, le samedi 7 septembre. Toujours au large de la baie des Citrons.
Merci Mickaël, il est 18h11, c'est presque la fin de ce journal. On va maintenant passer à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et cette météo, on la voit avec vous, Max.
Exactement, alors bonsoir à tous, pas de vigilance particulière pour cette nuit d'abord, des remontées nuageuses aborderont la façade ouest et les Loyautés, pouvant donner quelques gouttes sur la pointe sud-ouest en particulier. Ailleurs, le ciel sera bien étoilé, le vent de secteur sud se maintiendra souvent autour des 15 nœuds, localement entre 5 et 10 nœuds sur la côte est et l'extrême nord-ouest, et les températures minimales seront stables et évolueront peu et souvent entre 16 et 19 degrés plus près du littoral et plus proche de 11 degrés à l'intérieur des terres. Demain matin, nuages et éclaircies alterneront sur l'ouest, même si le soleil s'imposera par endroits dans l'après-midi. Aux Loyautés, le ciel restera souvent encombré. Le vent de sud à sud-est s'établira autour des 15 à 20 nœuds localement, 10 à 15 nœuds sur la côte est et autour des 15 nœuds sur la pointe sud. Belle soirée à tous.
Merci beaucoup Max pour la météo et pour la technique. Il est 18h12, nous sommes arrivés au terme de ce journal.